C'est parti. Baisse encore un petit peu, peut-être. C'est pas trop fort le son là? C'est bon pour vous? C'est moi qui me. On va lire un texte ce soir dans l'évangile de Matthieu. Ça va être un peu notre texte de réflexion ce soir sur une parabole que notre Seigneur Jésus a enseignée. Alors, Matthieu chapitre 20, ce qui est intéressant, c'est de replacer un peu la parabole, en tout cas lorsqu'elle nous est présentée dans l'évangile de Matthieu. Elle est précédée de cette fameuse parabole du jeune homme riche. Vous vous rappelez, on a parlé de ça dernièrement encore, dimanche dernier, où Jésus est en train de montrer que le salut est un don de Dieu et qu'on ne peut pas le mériter, on ne peut pas travailler pour l'avoir. Jésus, il est la grâce et la vérité, d'accord ? Et avec l'Église, on rentre dans la dispensation de l'Église, dans la dispensation de la grâce. Jésus, lui, il est né sous la loi, il a vécu sous la loi, d'accord ? Mais lui-même, il est la grâce. Le pasteur Love disait que Jésus, il a jamais parlé du mot « grâce ». Il était la grâce. Tout ce qu'il disait, c'est la grâce. D'accord ? Paul va, lui, l'utiliser beaucoup, plus de 100 fois dans ses épîtres, mais Jésus, jamais. C'est étonnant, hein ? Mais parce que tout ce qu'il disait était rempli de grâce. Il est la grâce et la vérité. D'accord ? Donc, dans cette parabole, Jésus va... Là, je parle du jeune homme riche, hein, au chapitre 19 de Matthieu, qui, lui, pense qu'avec sa justice propre, bon, il espère que ça suffit. Et puis, finalement, Jésus appuie vraiment sur là où ça fait mal, en lui montrant, mais attends, tu ne peux pas te sauver par tes œuvres. Et ce que je te demande, ben, tu ne peux pas le faire parce que c'est que par grâce que tu peux être sauvé. C'est que parce que tu vas recevoir ce que moi j'ai fait pour toi. Et ce que Jésus demande à ce jeune homme, ben, lui-même ben, est en train de le faire pour lui. Et on ne peut pas apporter à Dieu ce que seul Jésus peut faire. Je veux dire, le salut, le sacrifice, la mort expiatoire, enfin je veux dire, il n'y a que Jésus qui pouvait faire ça. Donc, et juste après, Pierre se dit, bah, ah, ça continue, après cette parabole du jeune homme riche, avant d'arriver à Matthieu 20, Pierre dit à Jésus, ah, bah, nous on a tout quitté pour te suivre. Alors il dit, bah, nous on a tout laissé tomber, donc nous on va avoir le pompon, le pactole, on va gagner l'euro million. Hein Et donc Jésus leur dit que ben, c'est Matthieu chapitre 19, verset 28. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères et ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, où ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Et ce sera la même conclusion pour la parabole qu'on va lire maintenant. Alors ici, Jésus est en train de dire que ce qu'on fait, et nos choix, et nos décisions, et notre obéissance, parce que c'est une vie de foi, hein, de suivre Jésus, une vie de communion, une vie d'intimité avec la parole de Dieu, avec de grandir dans la connaissance de Dieu, de grandir dans la parole de Dieu. Et là, il va enseigner une parabole, la parabole des ouvriers. Peut-être vous avez déjà lu ça. Et on va la lire ensemble, si vous voulez bien. Au chapitre 20, verset 1. « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la troisième heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui est raisonnable. » Et ils y allèrent Il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième heure, et il fit de même. Étant sorti vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur leur salaire, en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la onzième heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage. Mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ? » Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Seigneur, vraiment, on te demande de nous encourager avec cette parabole et de nous aider à saisir cette grâce, ta grâce, Seigneur. Et je te rends grâce pour ta fidélité envers nous et pour nous avoir donné ta parole, pour nous avoir donné ton Saint-Esprit et pour nous équiper, Seigneur, à saisir et à comprendre, Seigneur, cette grâce qui nous est tellement éloignée. Et je te demande de nous aider, qu'elle soit d'une manière puissante et pratique dans nos vies, Seigneur, dans nos relations, dans nos pensées, dans nos réflexions sur nous-mêmes, sur la vie, sur nos situations, sur notre passé, sur notre futur, sur notre présent. S'il te plaît, Seigneur, aide-nous à être enracinés dans cette grâce, Seigneur, afin de marcher là où tu à ta suite, tout simplement, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Au nom de Jésus. Amen. Donc, la semaine dernière, on s'est posé la question pourquoi la grâce, et on rappelait que c'était pour notre salut et que la loi, en réalité, ne peut pas nous sauver. D'accord ? Donc, je fais juste un rappel rapide de ce qu'on a dit la semaine dernière. En fait, la loi, c'est elle qui a fait le constat qu'on était tous pécheurs. Hein ? Donc, c'est pas la loi qui va nous sauver. La question, c'est avons-nous bien pris conscience du fait qu'on est vraiment pécheurs ? C'est un petit peu le problème du jeune homme riche. C'est qu'il avait des questions quant au salut, à la vie éternelle, mais en même temps, il pensait que ça allait bien quand même. Il était satisfait de ce qu'il avait fait. Donc, une certaine justice propre. C'est le problème de toute forme religieuse, quelque part, où on se cache derrière une façade, une forme, une loi, une règle, des préceptes. Et il n'y a pas de relation, il n'y a pas de communion, il n'y a pas de compréhension de la grâce. Et le problème, c'est qu'on a bien conscience qu'on a besoin de la grâce pour le salut, mais on en a besoin tout autant, chaque jour, pour notre vie, pour notre marche avec Dieu. Si ce n'est pas la grâce, on ne marche pas avec le Seigneur. Vous comprenez ? Et c'est très facile pour nous, c'est très naturel pour nous de marcher selon la loi, selon des règles, Et on a du mal. Donc, ça, c'est la première chose à réaliser, que la grâce, ce n'est pas naturel. Hein ? Le danger, même, c'est de se laisser séduire qu'on est assez juste, parce qu'on arrive à faire certaines lois, comme on avait lu cette parabole du publicain et du pharisien qui vont au temple, le pharisien qui est très content de lui, alors que le publicain, lui... Et on va essayer de voir où se situe le pharisien et où se situe le publicain dans cette parabole de Matthieu 20. On a montré aussi que on peut pas suivre Dieu. Hein, s'il n'y a pas la grâce, on peut pas suivre Dieu. On peut faire croire qu'on suit Dieu. On peut même se faire croire qu'on suit Dieu, mais on suit pas Dieu si c'est pas par la grâce. Hein, si c'est pas cet amour, ce regard de Jésus sur nous qui nous permet de laisser notre richesse, notre valeur, notre qui on est. On est très très souvent centré sur nous-mêmes, sur notre identité, sur notre valeur, sur est-ce qu'on est aimable, est-ce que le Seigneur va nous accepter. Et donc on a parlé de ce qu'on avait besoin, c'est de la parole de Dieu, la parole de sa grâce. Hein. Dans Actes 20, 32, c'est Paul qui recommande les anciens d'Éphèse à la parole de sa grâce. Et quand on lit la parole de Dieu, on sait que en Luc 24, quand Jésus parle aux deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, il leur dit que la parole, en fait, l'Ancien Testament, ça parle de lui. Il dit, et comment par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Jésus dans toutes les Écritures. Donc quand on lit les Écritures, on doit rechercher Jésus. Et on doit rechercher quoi ? La vérité et la grâce. La grâce et la vérité, donc elle est là, la grâce. C'est que c'est nous qui ne savons pas l'avoir. C'est nous qui ne savons pas la recevoir. C'est nous qui glissons très rapidement sur un terrain religieux, légaliste. Et on le disait la semaine dernière, le légalisme ne nous rend pas plus saints. Ça nous rend plus hypocrites. Seule la grâce nous amène à la sainteté. Parce que la grâce nous amène dans la communion avec Dieu. Et quand on est dans la communion avec Dieu, rempli de l'Esprit, alors oui, on ne pêche pas. Alors oui, on est sorti de ce monde de chair, ce monde de rebelle à Dieu, ce monde de péché. Donc vivre par la grâce, ce n'est pas du tout naturel. Et j'aimerais vous montrer dans Luc chapitre 7, notez la référence, je vais vous lire simplement, c'est notre... Et au verset 1, c'est cette fameuse histoire de Jésus avec le centenier romain. Vous vous rappelez peut-être cette histoire ? Il dit ceci, « Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus, lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya ses amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et il va, à l'autre vient et il vient, et à mon serviteur fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Ici, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment la pensée naturelle de l'homme et des anciens, et des religieux, et des pharisiens, j'imagine qu'il y en avait là-dedans, ces anciens qui sont venus pour demander à Jésus de venir guérir le serviteur du centenier, ils disent « il mérite que tu lui accordes cela ». Et nous, c'est très facile pour l'homme naturel de vivre selon ses mérites. Mais c'est l'opposé de la grâce. La grâce, c'est que nous ne vivons pas selon nos mérites, nous vivons selon les mérites de Christ. Et ça nous fait péter un peu les boulons. Parce que nous, on vit dans un monde... Et il faut comprendre que le monde dans lequel nous vivons, sa sagesse, sa philosophie, tout ce qui nous entoure, nous influence. D'accord ? Et ce monde, il a une sagesse. On sait qu'elle est... Jacques le dira qu'elle est même terrestre, charnelle et diabolique, en Jacques chapitre 3, verset 15. La sagesse de ce monde. Mais il en a une de sagesse. Et quelquefois, on peut se laisser séduire ou éblouir par cette sagesse parce que, parce qu'elle est humaine, parce qu'elle est constamment... on en est constamment bombardé, d'accord ? Et on a souvent ces proverbes qui nous reviennent, peut-être des proverbes français, « on n'a rien sans rien », d'accord ? Aide-toi et le ciel t'aidera. Tu n'as que ce que tu méritais, que ce que tu mérites. Et même des fois, c'est ce qu'on se dit à nous-mêmes. N'est-ce pas? Ça, c'est la sagesse d'en bas. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de dire que faisons tout et n'importe quoi. Pas du tout. Ce qu'on fait, nos choix, nos engagements, nos décisions, notre obéissance ont des conséquences. Mais quand il s'agit du salut, et quand il s'agit, et ce qu'on a besoin de comprendre, c'est quelle est notre attitude de cœur vis-à-vis de ça. C'est où est, dans quel. Quand on lit cette parabole-là en Matthieu 20, là, avec qui on s'identifie? C'est ça la grande question. Avec qui on s'identifie? Parce que, imaginez, là, voilà, c'est le cours, alors ceux qui prennent les UV, tout ça, je vous donne un devoir à faire, avec voilà, écrire 3 pages sur un sujet. Après, je vous dis qu'il va y avoir un examen sur tout ce qu'on a vu. Alors, imaginons qu'on soit à la fin du semestre, sur tout ce qu'on a vu. Alors, il y a ceux qui vont travailler, réviser, lire, passer des heures à faire leurs devoirs et tout ça. Et puis, vous me donnez tous les devoirs. Hein ? Et puis, il y en a qui vont faire du mieux qu'ils peuvent. Puis, il y en a qui vont, bon, au dernier moment, voilà, on va essayer de lire 3 notes. Voilà. Et puis, tout le monde fait son devoir, l'examen. Et puis, quand je rends la note, tout le monde a 100. C'est pas juste pour qui ? Pour ceux qui ont travaillé très dur. Pour ceux qui ont transpiré, comme Patricia qui est une bonne élève. Pour ceux qui auront passé des nuits blanches à faire leurs devoirs. C'est pas juste. Quand on lit la parabole, Dieu est pas juste. Enfin, c'est pas juste. On va revenir là-dessus, mais humainement, tout de suite, on se dit, mais attends, la grâce, c'est pas juste, ça. Le gars, lui, il n'a rien fait, je l'ai vu, il n'a rien fait, il a eu 100 comme moi, et c'est pas juste. D'accord ? Alors, déjà, ce qui est important de savoir, c'est qu'au ciel, on sera étonné de qui sera là-haut. Ah, lui, il est... Ben... Pétard, lui, il est là ! Ben, on pense au brigand sur la croix. Il a mal fini sa vie, quand même. Hein. Alors, il n'a pas fait peut-être que des bêtises, hein. Les criminels, des fois, ils font des choses horribles, et puis à côté de ça, ils peuvent faire des choses bien aussi. Mais, et puis peut-être on sera étonné de gens qui ne sont pas là. Donc, ce monde-là, disent-ils, le monde dans lequel nous vivons, disent-ils ses pensées, et on les adopte assez facilement, parce que cette sagesse humaine, on la capte. Et notamment un thème, un point que je voudrais souligner, c'est notre droit. On l'a tellement élevé, notre droit, qu'on est plus haut que Dieu aujourd'hui. Les droits de l'homme, qui va s'opposer aux droits de l'homme, je veux dire. Hein ? Mais bien sûr qu'il y a des choses bonnes là-dedans, évidemment. Mais on a élevé l'homme au-dessus de Dieu. Et l'homme qui vit selon ses droits, ça va créer en lui une attitude de revendication dans son cœur. Et aujourd'hui, c'est le droit au travail, le droit au logement, le droit à être soigné, le droit à la justice, le droit... Et tous ces droits, mais dans un monde de péché, hein, le droit à l'éducation, le droit à ma vie sexuelle, le droit à tout ce que je veux. Le droit. Et on est dans le droit, et on est dans la revendication, et on est dans le mérite. Notre société est basée sur ça. Et donc, le diable, qui est le prince de ce monde, il nous a enfermés dans ce principe-là, de revendiquer notre droit. Ce qui nous amène dans une forme d'orgueil et même d'arrogance. Alors, nous, on est enfants de Dieu, donc il y a eu un travail de Dieu dans notre vie. Mais de la part du diable, c'est plutôt bien joué. Parce que dans cette attitude-là, on se retrouve dans la catégorie de ceux qui ont travaillé dur. Et quand la grâce est manifestée, on n'est pas content. Mais pas content du tout. Et si en tant que chrétien, il arrive à faire vivre les chrétiens nés de nouveau, enfants de Dieu... toujours dans ce même façon de penser, eh bien, on va être des chrétiens frustrés, mécontents, se plaignant. Parce que, imaginez, on a lu l'histoire, le maître, donc c'est Dieu, qui va sur la place. Alors, il y va la première heure, c'est 6 heures du matin, c'est à ce moment-là qu'on commence d'être... Donc, les gens attendent, et il en prend quelques-uns. Et imaginez ceux qui sont choisis. Alors, est-ce que les autres sont venus plus tard? Est-ce qu'ils se cachaient? Comment c'est... Pourquoi certains... Bon, c'est l'histoire, mais c'est juste pour nous... C'est un principe, une histoire pour nous apprendre des principes, mais quand tu es choisi, je dis, ouais, c'est bon. Parce que le salaire qu'il leur propose, c'est le salaire d'une journée d'ouvrier. Donc, hey, aujourd'hui, je vais pouvoir amener de quoi manger à la maison ce soir. Super, formidable. D'accord ? Et ils partent contents pour retravailler. Ils travaillent et à la fin de la journée, ils ne sont pas contents. Parce que d'autres qui ont moins transpiré qu'eux ont eu la même chose. Vous voyez notre cœur, on n'est pas dans la grâce du tout. Si. Il y en a qui sont contents, là. C'est les derniers. Alors, eux, c'est la fête. Parce qu'eux, ils désespéraient. Si on se met à leur place, on ne les a pas choisis, ils se retrouvent là, ils ne vont rien avoir. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, on fonctionne... Et c'est pas dans beaucoup de pays, ce n'est pas le cas, hein, de ce que nous avons ici. Mais en général, on a un peu d'argent sur un compte, on a un peu le frigo, il y a des choses dedans. Dans certains pays, les gens gagnent pour manger, en Afrique en particulier. S'ils ne gagnent rien, ils ne mangent rien. Hein, Monique ? Donc, vous imaginez les gens là, qui attendent et que là, ils disent « à la cinquième heure, à la... » Alors, donc là, c'est à 17h, et la fin de la journée, c'est 18h. C'est cuit. Voilà, aujourd'hui, on ne mange pas, on ne ramène rien à la maison. C'est cuit pour nous. Et puis... le maître vient et les envoie dans sa vigne. Ben, ils y vont. On se dit, oh, ben, pour une heure, je ne vais pas y aller. De toute façon, il va me donner un douzième de denier. Je ne vais rien faire avec ça. D'accord ? On pourrait, l'orgueil de l'homme, dire, alors, même pas la grâce. Et la grâce, non. On ne la reçoit pas. Puis, celui qui y va et qui la reçoit, ben, il est émerveillé parce que la grâce, c'est bien plus grand que ce qu'il pensait. C'est que lui, il pensait avoir un douzième de denier, hein, un douzième du salaire d'une journée. Et il a la journée pleine. Je veux dire, il y a deux attitudes là. Quand on vit dans la grâce, c'est la reconnaissance, c'est le contentement, c'est l'émerveillement. Quand on ne vit pas dans la grâce, c'est le travail, c'est transpirer, c'est râler, c'est comparer, parce que ça amène à la comparaison. Forcément. Et la comparaison, le diable est très fort. Mais voyez, comparer. Et ça veut dire que nous, on se met à la place de Dieu pour savoir ce qui est bien de faire dans les bénédictions qu'il distribue. Mais quand on n'est pas le centre de la grâce, on ne supporte pas la grâce. Et le problème, c'est que si le diable nous garde dans ce principe de mérite, on ne peut pas être au centre de la grâce. Donc, on est mécontent. Donc, évidemment, cette parabole nous parle en particulier, nous enseigne encore une fois sur le salut. Il y a des gens qui vont se convertir voilà, juste avant leur mort, d'autres vont se convertir très jeunes. Et encore une fois, c'est ne pensez pas que... Dans une des traductions de la Bible que j'ai lues, lorsqu'il est dit, par exemple, il est dit là dans la seconde, il est dit, il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Ça, c'est pour les premiers, d'accord ? Il sortit vers la troisième heure et il en vint d'autres qui étaient là sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui est raisonnable. Et puis pour ceux qui arrivent à 17h, ou ceux qui l'embauchent à 17h, donc à la fin de la journée, à la 11e heure, il leur dit... Il en trouva d'autres qui étaient sur le verset 6, sur la place, il leur dit « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Alors, il leur dit « C'est parce que personne ne nous a loué. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Et là, il n'est pas... Dans certaines versions, peut-être, il est mentionné « Je vous donnerai ce qui est juste. Hein, » Tu as ça, toi, dans ta traduction ?« Et vous recevrez ce qui est juste. » C'est même pas ce qui est raisonnable, ce qui est juste, parce que c'est de la justice de Dieu, là, dont on parle. Et cette justice, c'est une justice de grâce. Mais si on vient pour la mériter, on se prive de cette justice de grâce. Si on vient en pensant qu'on va travailler pour la recevoir, on se méprend. Notre attitude de cœur n'est pas la bonne. Et qui sait qui, un jour, dans sa vie, ici, dans cette salle présente, et peut-être ceux qui nous écoutent, ont reçu de la part de la préfecture ou de la part de la gendarmerie ou de la part du gouvernement une lettre vous félicitant pour votre bonne conduite sur la route. Personne. Peut-être parce qu'elle n'est pas bonne. Non. Mais ce que je veux dire, de respecter le code de la route, on n'a fait que ce qu'on devait faire. Rien de plus, rien de moins. En fait, ils ont fait que ce qu'ils devaient faire, d'aller travailler, de gagner leur pitance à la sueur de leur front. Voilà. Ils n'ont fait que ce qu'ils devaient faire. Rien de plus. Il y a une autre histoire, c'est dans Matthieu, dans Luc, chapitre 17. Et verset 7. Qui de vous ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras, tu boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné ? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous est ordonné, dites « Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. » En fait, si on veut vivre selon les mérites, c'est ça qu'on doit se dire. Et on ne va plus vivre selon les mérites, nos mérites. On va dire « Moi, je veux maintenant vivre selon les mérites de Jésus-Christ. Je veux vivre selon les mérites de la grâce de Dieu. Pas les miens, pas mes efforts. J'ai fait que ce qui était, voilà, j'ai fait que ce qui était normal. Et pourquoi est-ce que... Voilà, Dieu devrait faire quelque chose de spécial. Et c'est intéressant que dans cette parabole, on revient à Matthieu 20, des ouvriers, Dieu, il aurait pu donner le denier au premier et sans dire aux autres ce qu'il allait recevoir. Mais c'est parce qu'il veut nous enseigner ce principe. Déjà, de ne pas se comparer. C'est là où il y a... J'aimerais vous dire, si c'est par la grâce de Dieu, je suis... C'est Paul qui dit ça. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Oui, mais je n'ai pas les dons d'un tel. Oui, mais je n'ai pas les talents de mon frère ou de ma sœur. Oui, mais je n'ai pas les richesses de mon voisin. Oui, mais je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je suis un... Voilà, est-ce que je réalise que je mérite pas d'être sauvé ? Je mérite pas d'être employé par le maître ? Et est-ce que je vois le fait de travailler pour le maître comme une contrainte ? Aujourd'hui, la plupart des gens voient le travail comme une contrainte. Si on pouvait rester à la maison, recevoir le salaire sans aller travailler, je pense que beaucoup de gens... Alors après ça dépend des boulots, il y en a qui ont la chance de vraiment se régaler dans ce qu'ils font, mais beaucoup de gens dire ok, ben je vais, on va s'amuser, on va profiter, on va pas travailler, d'accord, mais est-ce que nous, quand si on est dans la grâce, on va voir que le servir le Seigneur, c'est un privilège, c'est une bénédiction, c'est une grâce, c'est pas juste une contrainte. C'est pas juste, je suis obligé, voilà, donc je le fais. En fait, d'être là où le Seigneur est et d'œuvrer là où le Seigneur œuvre, donc à sa vigne, à son église, aux âmes, c'est notre vie. C'est là qu'on trouve la vie, c'est là qu'on voit la grâce, c'est là qu'on s'émerveille encore de ce que nous qui sommes encore... même si on est une nouvelle création, même si on est enfant de Dieu, il y a encore des choses qui ne vont pas dans nos vies. Mais ça n'empêche pas Dieu de nous avoir appelés, de nous avoir choisis et de nous utiliser et que nous, dans notre attitude, on reste toujours on s'identifie à ceux de la dernière heure. D'accord ? Et que, et si on a, peut-être on s'est converti jeune dans sa vie, on a, ben c'est une joie, c'est pas, oh, moi j'ai fait plus que eux, je mérite plus que eux. Les récompenses, c'est encore autre chose. Dieu va nous récompenser, Dieu est juste, ne vous inquiétez pas avec ça. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a lu un peu auparavant. Jésus, il a fait des promesses extraordinaires aux apôtres qui ont tout laissé, et ceux qui, à cause de son nom, à cause de l'évangile, vont quitter leur terre, vont quitter leur père, leur mère, vont aller. Il y aura des bénédictions, il y aura des richesses, même sur le temps présent. D'accord ? Ils vont trouver une famille, ils vont trouver des frères, ils vont trouver des maisons, au centuple. Je veux dire, vous ne trouverez aucun rendement sur la terre, d'aucune banque qui vous propose un rendement au centuple. Jamais. Jamais. D'accord ? C'est inimaginable. Et c'est les promesses que Dieu nous fait. Alors, on terminera. Peut-être quelques pensées encore. Ces hommes-là qui, en fait, l'homme, il veut être le premier. Il a cet esprit de compétition. Parce que c'est la crainte, c'est la culpabilité, c'est la honte, c'est le péché qui est en lui. Il veut surpasser les autres pour espérer être aimé, être aimable, avoir de la valeur, être accepté, être reconnu. Regardez, aujourd'hui, on est dans une société, il faut être connu. Il faut être reconnu. Tout le monde veut être connu ou reconnu. Avec les médias, aujourd'hui, des gens qui sont inconnus peuvent vite devenir connus. Et on est tous un peu à cette... Et ça, c'est, quelque part, ça, ces gens qui vivent parce qu'ils sont reconnus par les autres, ils ont besoin de cet amour de les stars, là. Ils ont besoin de leur amour, de l'amour de leurs... comment on dit, de leurs fans. Ils vivent de ça. Et des fois, ils prennent leur retraite, puis ils reviennent parce qu'ils en ont tellement besoin. C'est leur valeur, elle est là-dedans. Et c'est triste. C'est triste parce qu'elle est basée sur les circonstances. Elle est basée... Alors, un jour, tu es une star, le lendemain, tu n'es plus rien. Donc, il y a des gens qui dépriment complètement parce qu'ils n'ont plus l'amour de ces gens-là. Hein. Et parce que, d'abord, ils n'ont pas cherché l'amour au seul endroit où il est vrai, où il est éternel, où il est inconditionnel. Mais donc, on cherche à être les premiers. D'accord ? On cherche à avoir les bonnes places, on cherche à être reconnu, on cherche à avoir un bon travail, on cherche à avoir une place dans cette société. Par notre travail, par notre labeur, par notre force, notre point levé, hein, par l'énergie de la chair. Et ben, la fin de ça, c'est que ces gens qui ont les belles places là, ces gens qui s'appuient sur eux-mêmes, sur leurs mérites, sur leurs efforts. Je suis pas en train de parler que la discipline de servir le Seigneur, de s'engager, que c'est pas de Dieu. Hein. Je ne suis pas en train de dire ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand c'est que la chair, quand c'est que moi, pour essayer d'atteindre Dieu par mes œuvres, par mes efforts ou par ce que moi je peux faire, eh ben, je pense que je suis le premier. Et selon ce monde, je suis le premier. Mais quand les comptes seront faits, je serai le dernier. Les premiers seront les derniers. Et en plus, je serai mécontent. Alors que les derniers... Nous qui avons mis notre confiance en Jésus-Christ, qui avons mis notre confiance et qui croyons et qui nous appuyons pas sur nos mérites, mais sur les mérites de Jésus-Christ et de son œuvre et de sa patience, que je suis ce que je suis par sa grâce et que ce qui manque, sa grâce le comble. Donc j'ai pas besoin de me comparer, je dois être comme ça, je dois avoir ceci, je dois avoir cela. Non, j'ai ce que j'ai, je suis ce que je suis et Dieu m'aime comme je suis. Et si j'ai cette attitude-là, d'humilité quelque part, de reconnaître que voilà, moi j'ai pas été le premier, j'ai pas été choisi, j'étais pas baraqué peut-être, j'étais pas ceci, j'étais pas cela, j'avais pas les talents pour être, mais Dieu m'a choisi, Dieu m'a appelé et Dieu m'a envoyé, et c'est une grâce. Qui suis-je? Et si on a cette attitude là, ben la vie, c'est clair, il y a le contentement. Les autres, ils pensent être les premiers, ils sont pas contents, et les autres qui étaient les derniers, ils sont les premiers, ils sont contents. Je veux dire, vivre dans la grâce, ça change tout en réalité. Comprenez, ça change notre perception de nous-mêmes, notre perception des circonstances. Et quand quelqu'un est béni, Et ben on dit, oh pétard. Et c'est pas facile. Imaginez, je sais pas, une femme célibataire et puis elle attend. Et puis sa sœur juste à côté, paf, elle va se marier. Et elle est toujours célibataire et puis ça se recommence. On pourrait dire, hé, où est Dieu là? Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Hein? Et c'est vrai que c'est facile de se comparer. C'est vrai, on regarde à l'autre et on regarde à celui-là. Lui, il réussit tout, il n'a jamais de problème, il est toujours content, il fait tout ce qu'il a envie, on dirait. Enfin, je veux dire. Et moi, je suis tout le temps à la galère, je n'arrive pas à finir les fins de mois, je suis avec ma famille, avec mes enfants. On ne compare pas. Tu ne sais pas ce que l'autre vit dans son cœur. Peut-être c'est un désert spirituel dans sa vie. L'extérieur semble waouh, super. Toi, peut-être l'extérieur, c'est bancal. Mais il y a Dieu dedans. Il y a la vie, il y a la présence de Dieu, il y a la grâce de Dieu qui est à l'œuvre, qui te tient debout, qui t'encourage, qui te fait relever les défis. Parce que c'est ça qui est extraordinaire, c'est que quand on vit par la grâce de Dieu, on va faire bien au-delà de ce qui est raisonnable. Par la grâce de Dieu, on fait le deuxième mille. Par la grâce de Dieu, le Seigneur a la première place. Alors que les autres, le Seigneur n'a pas la première place. C'est juste un maître et il faut qu'il donne ce qu'il doit donner. Et j'ai le droit qu'il me donne plus, parce que moi, j'ai travaillé plus que les autres. Donc cette parabole, si on s'identifie au premier, elle est injuste. Dans nos émotions, dans notre raisonnement humain. Si on s'identifie au dernier, alors là, elle est formidable, cette parabole. Elle est extraordinaire, cette parabole. Moi, c'est ça que je veux. Et en fait, si on ne comprend pas qu'on est les derniers, on se prive de la grâce. Si on vient avec nos mérites, si on ne comprend pas qu'on est des serviteurs inutiles, on va se priver de la grâce de Dieu. Et ce qui va amener un esprit, et c'est l'esprit qui est dans notre pays en particulier, de mécontentement, de râleur, de pas content. Voilà, on va faire la grève pour ci, pour ça. Et je ne suis pas en train de faire de politique, c'est justifié, pas justifié, mais ce qui manque, c'est ça. C'est un cœur qui a compris, qui commence à comprendre la grâce de Dieu. Et si nous, on commence à lire la parole de Dieu, à vivre notre vie chrétienne avec nos frères, avec nos sœurs, sur ce principe de la grâce, où on ne se compare pas, où on ne se juge pas, où on ne se critique pas, où quand un est béni, ben, on se réjouit avec celui qui est béni. Même si c'est pas « Ah, oh, mais moi !» Mais voilà, merci Seigneur, c'est la grâce de Dieu qui est, et nous, ben, on fait confiance dans ça. Allez, on est debout, il est avec nous, il nous aime, il nous a offert la vie éternelle. Qu'est-ce que tu veux de plus? Il nous a offert sa présence. C'est pas extraordinaire, ça? Il nous a fait des promesses extraordinaires, que toute chose concourt pour notre bien. Oui, mais moi, quand je regarde mes situations... J'ai pas l'impression que ça concourt pour mon bien, ça. Ben, Seigneur, ouvre mes yeux sur la grâce. Que ces choses-là aussi concourent pour mon bien. Imaginez, Job, quand il est en plein dans l'épreuve, il peut dire ça concourt pour mon bien, ça. Il le dit pas, d'ailleurs. Et parce qu'il essaye de se justifier avec ses amis qui lui disent si tu arrives ça, c'est que tu as un gros péché dans ta vie. Alors que Job, en fait, il est privilégié d'être un outil pour témoigner de la gloire et de la grâce de Dieu. Et de montrer que s'il aime Dieu, c'est pas pour ses bénéfices, mais c'est pour qui est Dieu. Parce que c'est ça le test, hein, au départ. Le diable dit, ouais, mais Job, il te sert, il t'aime parce que tu l'as béni. Enlève-lui tout ça, tu vas voir, il va te maudire en face. Et dans nos épreuves, comment notre attitude, est-ce qu'on réalise? Parce que nous, on voit sur le temps, le moment, la souffrance, la difficulté, l'incompréhension, on se demande où est Dieu. Mais si on a cette foi du centenier, et Jésus la loue, la foi du centenier, cette foi, Dieu, il a sa main sur ça. Il est en contrôle. C'est pas C'est dur, on n'est pas, on saute de joie quand les mauvaises nouvelles arrivent, de santé, de finances, de relations, de choses comme ça. On ne dit pas que c'est super. Mais si on avait si on pouvait avoir cette foi, dire, ok, Seigneur, comment tu vas faire dans ce... je m'attends à la grâce de Dieu. Je ne m'attends pas à réussir par moi-même, mais j'attends que la grâce de Dieu en moi me rende fort pour garder la foi et pour traverser ça et pour manifester dans l'invisible la gloire de Dieu à travers une pauvre vie qui commence à devenir riche de la grâce de Dieu. Qui commence à s'étoffer. Et c'est tellement à l'opposé. Tellement à l'opposé de ce qu'on pense et de ce à quoi nos cœurs naturels s'inclinent ou dans la direction dans laquelle ils vont. Et c'est pour ça qu'on a besoin, Pasteur Love rappelait ça dans la conférence à Paris, il parlait de, on doit être imbibé de la grâce. On doit être des éponges, pas des rochers. Plonge un rocher dans l'eau, tu le ressors, et il y a un peu d'eau dessus. Mais une éponge, tu la plonges dans l'eau. Et nous, on doit être des éponges dans l'eau. Des éponges, vraiment. Et on doit, c'est pour ça qu'on doit être, c'est pour ça que Dieu nous encourage à la parole de Dieu, à la lire, à la méditer, et à la lire avec les yeux. Seigneur, ouvre mes yeux sur cette grâce, sur ta parole. Elle est là, elle est écrite en papier, en lettres, sur des feuilles, mais c'est la grâce qui est là, qui est là pour moi. Et si j'ai cette grâce, je serai prêt à obéir à Jésus. Si je n'ai pas cette grâce, je vais râler. Je ne vais pas être content. Je vais comparer. Je vais juger. Je vais critiquer. Je ne vais pas m'aimer. Mais la grâce fait que je peux m'aimer. Même s'il y a encore peut-être des choses qui... D'accord ? Mais ça, c'est le travail de Dieu. Ça, c'est le repos de la foi. C'est Dieu qui a commencé cette œuvre. C'est Dieu qui va achever cette œuvre. Quel repos, en fait. Quand on commence on se repose. C'est pour ça que lorsque l'auteur des Hébreux écrit en Hébreux chapitre 4, il parle du repos de la foi. Ce n'est pas l'inactivité, le repos de la foi. Mais le repos de la foi, c'est qu'on ait la paix avec Dieu. Le repos de la foi, c'est qu'on est en communion avec Dieu. Le repos de la foi, c'est qu'on a la joie. C'est qu'on a le fruit de l'esprit en nous. On a l'amour de Dieu. Le repos de la foi, c'est qu'on a la maîtrise de soi. Donc, je trouvais intéressant de nous encourager à avoir cette prière, Seigneur, la grâce de Dieu. On en parle. Mais on ne veut pas simplement en parler. On veut la respirer, on veut la manger, on veut la boire, on veut la garder, on veut la méditer. Et on veut la recevoir pour nous. On va apprendre à s'aimer, à se voir avec les yeux de la grâce. Ça aussi, ça change tout. Parce que très souvent, la motivation pour faire les choses, c'est la culpabilité, c'est le péché, c'est la crainte, c'est la honte. On s'habille de bonnes œuvres pour, parce qu'on a tellement peur. On a peur de se regarder à nous-mêmes. Mais en fait, la grâce, c'est que maintenant, on ne regarde plus à nous. Hein. On regarde à Jésus, on regarde à la croix, qui nous a délivrés, qui nous a affranchis de l'esclavage du péché et qui aujourd'hui nous offre une vie surnaturelle. Donc, ce n'est pas avec mon intelligence, avec mes capacités, avec ma force, c'est avec l'aide de Dieu, avec le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu, avec la grâce de Dieu. Et c'est ça notre vie. Et j'aime vous dire, c'est un beau défi. Et on va échouer souvent. C'est pour ça que la grâce, en Romains 5, 20, elle est surabondante. Donc, ne nous décourageons pas si on échoue, si on ne fait pas le bon choix, si on retombe quelquefois un peu dans des travers légalistes ou religieux qu'on peut avoir chacun, quelque part. Ne nous y enfermons pas dedans. Ne les acceptons pas. Si, le thermomètre, c'est ça. C'est si on commence à être mécontent de nous, mécontent des autres, mécontent de ceci, si on n'a plus la reconnaissance dans notre cœur, c'est qu'on est en train de glisser dans une... Il n'y a plus la grâce. Il n'y a plus la grâce. Il n'y a plus la compréhension de la grâce. Alors, demandons au Seigneur. Seigneur, là, je ne peux pas vivre ici-bas juste avec cette attitude-là. Vous imaginez Alors, on est d'accord, on n'est pas toujours parfait, loin de là. Donc, on échoue. Donc, dans nos témoignages autour de nous, des fois, on n'a pas la bonne attitude. Mais on rebondit. C'est ça, la grâce. C'est qu'on ne reste pas à, finalement, à baisser les bras en disant « Bon, ben, je suis... Le diable a gagné, je suis mon péché. Je suis mes faiblesses, je suis ma bêtise, je suis ma folie, je suis ma stupidité, je suis... Ou alors, non, je n'ai pas besoin de Dieu, moi, je suis religieux. Et je m'enferme dans une carapace d'hypocrisie. Mais c'est horrible. C'est horrible pour la fin de ta vie et c'est horrible pour ceux qui sont autour de toi. D'accord ? Parce que les relations, ce n'est pas très intéressant avec quelqu'un comme ça. D'ailleurs, c'est les seules personnes avec qui Jésus avait des problèmes. Hein. C'était ces gens-là, ceux qui se croyaient juste, propres, et qui n'avaient pas cette relation parce que leur attitude de cœur n'était pas... Ils avaient leur confiance en eux-mêmes, en leur propre mérite. Et nous, on ne s'approche pas de Jésus parce que c'est basé sur ses seuls mérites. Et on se lève le matin, on dit « Seigneur, quelle grâce !» Quelle grâce de la destinée que tu as préparée pour moi. Quelle grâce de l'opportunité de marcher avec toi aujourd'hui. Quelle grâce de cultiver l'amitié à laquelle tu m'as invité. Et ça se fait des fois dans la douleur, dans les larmes, dans la joie, dans la reconnaissance. Je pense qu'on a vraiment besoin de cultiver cet esprit de reconnaissance. Parce que c'est totalement à l'opposé de l'esprit du monde dans lequel on vit. Pourtant, en France, si vous avez voyagé un peu, on n'est pas si malheureux que ça. Sérieusement. On est gâté. On peut se faire soigner. On peut avoir des aides. Enfin, je veux dire, on a des bonnes infrastructures. On peut manger plus ou moins quand même à sa faim, ceux qui sont peut-être pauvres. Aujourd'hui, il y a des associations, on peut aller chercher des repas. Enfin, je veux dire, on est quand même privilégié. Hein. Mais non, on n'est pas content. Mais c'est ça, c'est cet esprit-là. Le gars, il a eu son denier, il a eu sa journée de travail, il rentre à la maison. Ben non, il n'est pas content. Parce que l'autre, il a plus. Et beaucoup de gens sont dans la rue parce que l'autre, il a plus, aujourd'hui. Je ne vais pas faire de... Mais c'est un peu ce qui pousse les gens. Si on s'arrêtait là, et on prenne juste peut-être 5 minutes de prier ensemble pour demander au Seigneur de nous aider à saisir cette grâce. Saisir son pardon, saisir sa présence, saisir son amour, saisir cette vie surnaturelle. Et après, on finira avec un chant, si vous voulez bien.